Amérique et d'Haïti, présenté par Mickaël Ponge. Bonjour Mickaël.
Bonjour Marion, merci. Les 15h10 à Bruxelles. Une fois n'est pas coutume, c'est de l'autre côté de l'Atlantique que l'on est aujourd'hui avec Joe Biden qui participe au sommet de l'OTAN, le président américain qui veut redynamiser une alliance autour de valeurs démocratiques communes. On décrypte avec notre invité du jour. On va revenir aussi sur les élections régionales au Chili, les arrestations d'opposants qui se poursuivent au Nicaragua. Et puis dans une quinzaine de minutes, le journal de la première, Benoît Ferrand, vous nous proposez un tour de yole en Martinique.
Annulé en 2020, le Tour de Martinique en yole ronde aura bien lieu cette année à la fin du mois de juillet. Un grand retour qui pourtant ne déchaîne pas forcément l'enthousiasme.
À tout à l'heure Benoît et bienvenue à tous. Des plages de Cornouailles à Bruxelles avant de finir par la Suisse. Joe Biden poursuit sa tournée européenne et c'est donc dans la capitale de l'Union que s'est arrêté aujourd'hui le président américain. Bruxelles siège également de l'OTAN.
I want to make it clear. NATO is critically important for US interest.
Je veux être clair, a dit tout à l'heure Joe Biden après son entrevue avec le secrétaire général de l'Alliance Atlantique Nord. L'OTAN est d'une importance capitale pour les intérêts américains. Elle permet à l'Amérique, a-t-il dit, de mener ses affaires dans le monde d'une manière qui n'aurait jamais eu lieu. Et Joe Biden de préciser les défis de l'OTAN. La Russie qui n'agit pas d'une manière conforme à ce que nous avions espéré. Et aussi la Chine, dit Joe Biden. Bonjour Jonathan Paquin.
Bonjour.
Professeur de sciences politiques à l'Université de Laval, à Québec. Merci d'être en ligne avec nous. On a beaucoup parlé du retour de l'Amérique auprès de ses alliés, après évidemment les années Trump, qui, on s'en souvient, avait qualifié l'OTAN d'obsolète. Joe Biden, là, on vient de l'entendre, prend le contre-pied, et c'est avant tout autour de ces valeurs que le président américain tente de recréer de la cohésion, ces valeurs démocratiques. On peut l'analyser comme ça?
Oui, alors Joe Biden est certainement le président le plus atlantiste des dernières décennies et donc son élection a été véritablement du pain béni pour les membres de l'Alliance. Et il est vrai que Joe Biden veut mettre l'accent sur la promotion de la démocratie et la défense des droits humains. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Alliance est passée par toutes sortes d'émotions au cours des dernières années. On a qu'à se rappeler, par exemple, le dernier sommet de l'OTAN qui a eu lieu en décembre 2019 pour souligner le 70e anniversaire de l'Alliance. C'était Donald Trump qui était là à cette époque. Il y avait des tensions considérables entre les membres. Pensons aux relations tendues entre la Turquie et la France ou entre la Turquie et les États-Unis. Et donc, au cours de la dernière année, l'Alliance, qui est dirigée par Jens Stoltenberg, est passé à une forme d'introspection. On a fait un pas de recul pour essayer d'imaginer l'Alliance pour les 10 ou 15 prochaines années. Et donc, ce qui est ressorti de cette grande réflexion au sein de l'OTAN, et c'est de ça dont il sera question aujourd'hui dans le cadre du sommet de l'OTAN, c'est deux principales conclusions. Premièrement, l'OTAN fait face depuis quelques années à un environnement stratégique qui a radicalement changé. La Russie est beaucoup plus une menace qu'elle l'était en 2010, par exemple, et on assiste à une ascension fulgurante de la Chine. Donc, l'OTAN devra probablement réviser, revoir ce qu'on appelle le concept stratégique de l'Alliance, et Joe Biden poussera pour qu'il y ait révision de ce dit concept stratégique.
Sa feuille de route, en fait, pour les prochaines années à venir.
Voilà, exactement. Et la deuxième conclusion du dit rapport, c'était que l'Alliance fait face à des problèmes internes majeurs qui minent sa cohésion. Et alors, Joe Biden fera tout aujourd'hui pour essayer de trouver des éléments sur lesquels les alliés pourront collaborer et s'entendre. Et le respect de la démocratie et des droits de l'homme seront véritablement au cœur de ses préoccupations.
Et ce manque de cohésion, Jonathan Paquin, qu'on a vu notamment avec la Turquie, mais également avec la Hongrie, ce sont des dissensions internes, des faiblesses que tentent d'exploiter les deux rivaux que citaient Joe Biden, la Chine et la Russie.
Ben absolument. Alors, on fait face à une multiplication des problèmes qui créent des divisions et qui permettent donc à la Russie ou à la Chine de s'immiscer et de tenter d'accroître ces dites dissensions. On a qu'à penser, par exemple, aux divergences quant à la perception des menaces au sein de l'Alliance. Vous parliez de la Hongrie ou de la Turquie. Ben, ce sont des États qui considèrent que la Chine et la Russie sont des opportunités qu'elles offrent des occasions d'affaires, qu'ils permettent à ces États de diversifier leurs relations stratégiques et économiques, alors que pour d'autres États, la Chine et la Russie représentent des menaces de première importance. Il y a aussi des tensions bilatérales entre plusieurs membres. Je faisais allusion à la Turquie et à la France, par exemple. Il y a la sempiternelle question du partage du fardeau militaire au sein de l'Alliance qui crée des tensions. Et puis le déclin démocratique auquel on faisait allusion. Et pour Joe Biden, ça, c'est un problème de toute première importance. On parle de plus en plus de démocrature, hein, lorsque l'on parle de la Turquie ou de la Hongrie. C'est-à-dire qu'il y a des hommes forts populistes qui nivellent par le bas, disons, les institutions démocratiques dans leur pays. Et ça, ce sont des problèmes majeurs que pourraient exploiter la Russie et la Chine, bien sûr.
Des dissensions au niveau des défis, vous nous dites, est-ce que cela veut dire que lorsque Joe Biden met en avant et martèle depuis tout ce week-end ces menaces que représentent la Chine et la Russie, est-ce que cela veut dire que les membres de l'OTAN, les Européens, sont en quelque sorte pris en otage dans cet agenda américain que Joe Biden tente d'imposer?
Certains le sont probablement, pour les raisons qu'on a évoquées. Certains membres ne considèrent pas que la Russie est une menace. Au contraire, c'est une façon pour certains de ces États d'accroître leur autonomie stratégique. Je reviens, bien entendu, à la question de la Turquie, qui est toujours une épine au pied de l'OTAN. Mais bien sûr, Biden ira de l'avant, et c'est lui véritablement qui dessine les grands axes de réflexion. Après tout, ce sont les États-Unis qui contribuent qui contribue le plus au budget de cette alliance depuis toujours, financièrement, merci. Et alors, il faudra que les autres les États suivent, même ceux qui ne sont pas nécessairement d'accord avec la perception ou avec les priorités de Joe Biden.
Et sur la Russie, par exemple, les Européens et les membres de l'OTAN ont bien demandé à être entendus en amont de la rencontre qu'il y aura mercredi avec Vladimir Poutine. Ils ont un message à faire passer et ils veulent aussi que Joe Biden s'exprime en leur nom.
Oui, alors, il faudra voir exactement l'issue de la rencontre d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura véritablement une position commune européenne qui sera portée par Joe Biden à Genève ce mercredi dans le cadre du sommet avec Vladimir Poutine? Je n'en suis pas certain, il faudra voir, mais chose certaine, Biden parlera en son nom mercredi d'abord et avant tout. Bien sûr aussi au nom de l'OTAN, mais d'abord au nom des États-Unis.
Ce qui m'amène, Jonathan Paquin, à une question très simple. On avait l'America First de Donald Trump. On a aussi l'Amérique d'abord et avant toute chose de Joe Biden. On le comprend là dans ce que vous nous dites face à cette rencontre avec Vladimir Poutine. On pense aussi à l'Afghanistan, l'annonce du retrait qui a été faite de manière quasi unilatérale, sans consultation. Les Européens et l'OTAN ont été obligés de s'aligner. C'est là aussi l'Amérique de Biden qui donne le tempo et impose son agenda.
Oui, mais je pense que ça a toujours été l'Amérique d'abord. C'est évidemment, Trump martelait ce thème, mais ça a toujours été le cas. Dans les années 80, 90, 2000, c'était ça aussi. On n'a qu'à penser à l'intervention en Irak en 2003. C'était l'Amérique d'abord. Donc Biden cherche évidemment à se rapprocher des membres de l'OTAN à cause des 4 années de Donald Trump qui ont été, disons-le, chaotiques pour l'Alliance. C'était en quelque sorte le monde à l'envers. Mais au-delà de la volonté de recréer une forme de confiance mutuelle, Biden poursuit ses propres priorités en politique étrangère et ce mercredi, ce sera d'abord et avant tout le point de vue américain qui sera exposé à Vladimir Poutine.
D'où peut-être, on termine là-dessus très rapidement, une méfiance, en tout cas quelques réticences de la part de l'Europe à ne pas tout donner d'un coup face à Joe Biden.
Oui, bien sûr, parce que il faut rester. Il faut garder la tête froide. En janvier 2025, il est tout à fait possible qu'un républicain trumpiste, voire que Donald Trump lui-même, se retrouve à la Maison-Blanche pour un deuxième mandat non consécutif. Alors, les alliés de l'OTAN n'ont pas intérêt à tout donner à Biden parce que le climat politique change vite et qu'une élection aux États-Unis peut changer radicalement le paysage stratégique pour les alliés de l'OTAN. Donc, ils ont intérêt à rester sur leur garde et à penser d'abord et avant tout à leurs propres intérêts.
Jonathan Paquin, l'Université de Laval à Québec, au Canada. Merci beaucoup pour votre éclairage. Signale votre livre écrit avec Justin Massy, America's Allies and the Decline of the US Hegemony, c'est chez Routledge. Merci beaucoup.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Il est 9h20 quasiment à Santiago, la capitale chilienne, reconfinée depuis ce week-end face au nouveau pic de Covid où malgré tout, comme dans le reste du pays, on a voté hier pour le second tour des régionales, scrutin inédit. Avant, c'était l'exécutif qui nommait ses gouverneurs régionaux. Peu de participation, une droite qui s'écroule. On fait le point avec Justine Fontaine.
Avec un seul gouverneur élu sur 16 régions au total, la coalition de droite au pouvoir subit un échec cuisant lors de ces élections. D'autant plus que cela intervient un mois à peine après une autre défaite, celle des élections de l'Assemblée constituante, où la droite avait obtenu moins d'un tiers des sièges déjà. De son côté, la gauche traditionnelle se refait une santé, avec 10 gouverneurs élus. Elle rêve de surfer sur cette vague d'ici aux élections législatives et présidentielles prévues à la fin de l'année. Enfin, les indépendants ainsi que la gauche issue des mouvements sociaux remportent, eux, 5 régions. Pas de triomphalisme pour autant, car malgré les attentes réelles des Chiliens concernant la décentralisation du pays, les candidats et les partis politiques n'ont pas réussi à mobiliser les électeurs. 80% d'entre eux sont restés chez eux, de quoi relancer les débats concernant un éventuel retour au vote obligatoire, qui était la norme au Chili jusqu'en 2012. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
Des élections qui font la une de la presse ce matin. Bonjour Camille Marigot.
Bonjour.
Les journaux s'interrogent sur cette démobilisation des électeurs chiliens et cette faible participation donc historique.
Oui, la Tercera précise que dans la région métropolitaine de la capitale, seul un électeur sur 4 a voté, de quoi relativiser la victoire du candidat de la gauche, Unidad Constituyente, Claudio Orrego, désormais gouverneur de Santiago. Et pour l'expert électoral Mauricio Morales, s'interrogeait par le quotidien, l'abstention s'explique par la fatigue des citoyens à cause d'un excès d'élections en très peu de temps. Ces élections régionales, en quelque sorte coincées entre le référendum sur la constituante et la prochaine présidentielle, eh bien, ont pu être considérées comme un scrutin de second ordre. La débâcle pour les partis de droite, qui s'ajoute à celle des élections constituantes, intéresse cette fois El Mostrador. La défaite de mai dernier pourrait être attribuée au gouvernement et au président Piñera, fait remarquer le quotidien, mais pour ces élections régionales, l'échec incomberait plutôt à la coalition de droite et de centre-droit qui sortirait diminuée des faits qui pourraient se reproduire lors des prochaines élections législatives et présidentielles.
Le Pérou, lui, à J+8, attend toujours la proclamation des résultats officiels du second tour de la présidentielle de dimanche dernier. Ça semble néanmoins se préciser, Camille.
Et la balance penche en faveur de Pedro Castillo, indique La Repubblica. Le candidat de Pérou Libre devancerait sa rivale de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, d'environ 49 000 voix, selon les derniers chiffres de l'Office national des processus électoraux. C'est la dernière ligne droite, estime El Comercio, même si l'annonce des résultats définitifs dépend aussi du jury national électoral qui examine en ce moment les recours pour fraude déposés par la candidate de droite. Le prix Nobel de littérature, Mario Vargas Llosa, a réagi hier. Il se demande s'il ne serait pas plus prudent, tant que le jury ne s'est pas prononcé, de ne pas utiliser ce mot fraude, un mot très dangereux selon l'écrivain qui a pourtant apporté son soutien à Keiko Fujimori. L'auteur considère quand même que l'arrivée au pouvoir de Pedro Castillo serait une catastrophe, relate La Razón.
Une ex-présidente à la une en Bolivie, Jeanine Agnès, s'est exprimée hier de sa prison.
Oui, le jour de ses 54 ans, elle a publié la photo d'une lettre manuscrite sur les réseaux sociaux dans laquelle elle dénonce son incarcération débutée le 12 mars dernier. Après le retour de la gauche au pouvoir, elle est aujourd'hui poursuivie notamment pour terrorisme. Et plusieurs quotidiens relaient son message, comme Correo del Sur, qui cite Jeanine Agnès. Le MAS, le parti présidentiel, a décidé que le trophée de sa vengeance soit détenu en prison. Et c'est là que je me trouve après 90 jours passés comme prisonnière politique. Los Tiempos cite de son côté l'ancien ministre de la Justice, Álvaro Coimbra, qui assure qu'aucun élément ne justifie cette détention et que le pouvoir judiciaire ainsi que le ministère public sont, je cite, une honte pour le pays.
On en a beaucoup parlé ces derniers jours. L'opposition réduite au silence au Nicaragua à mesure qu'approche la présidentielle de novembre. De nouvelles arrestations, Camille, ont eu lieu encore ce week-end.
Oui, le régime poursuit sa chasse contre l'opposition au mépris des condamnations par la communauté internationale qui a exigé la libération de tous ceux qui ont déjà été arrêtés. arrêtés, peut-on lire dans la Prensa.
Et parmi ceux qui ont été arrêtés encore ce week-end, il y a Hugo Torres, vice-président du parti d'opposition UNAMOS, qui a eu le temps d'enregistrer un message avant d'être interpellé. Écoutez.
No es un régimen legal.
Ce n'est pas un régime légal. Il s'agit de manœuvres désespérées de la part d'un régime qui se sent moribond, qui n'a aucun statut légal, qui n'a aucune justification d'un point de vue institutionnel et juridique pour rester au pouvoir au-delà de novembre de cette année, lorsque des élections libres et supervisées devraient être organisées.
Et Hugo Torres qui a pu joindre aussi la Prensa pendant que sa maison était encerclée.
Oui, le quotidien rappelle que ce dissident sandiniste est l'unique guérillero qui a participé aux deux grandes opérations militaires du FSLN contre le dictateur Somoza à la fin des années 70. La prise du domicile de Chema Castillo et celle du Palais National. Il est aussi l'un des rares combattants à avoir participé à la libération de Daniel Ortega de sa prison en 1974 et dans sa vidéo avant d'être arrêté par la police, Hugo Torres regrette que le président actuel se retourne contre lui et lance d'ailleurs cette phrase « La vie est ainsi, ceux qui ont un jour embrassé ses principes les ont aujourd'hui trahis ».
Un petit mot pour finir de l'Argentine, Camille, où aujourd'hui une étape judiciaire a lieu pour déterminer les causes de la mort du Pibe de Oro, Maradona.
Et oui, et parmi les 7 personnes soupçonnées d'être impliquées dans son décès, se figure son médecin personnel et une psychiatre accusée de l'avoir abandonné à son sort, rappelle le site La Américas. Tous sont poursuivis pour avoir prescrit un traitement inadéquat, déficient, imprudent. Ces auditions ont été repoussées de 2 semaines à cause de la nouvelle vague de Covid-19 qui a frappé la capitale. L'enquête reprend donc au siège du procureur général à San Isidro, à Buenos Aires.
Camille Marigot, merci.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est avec Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Le tour de Martinique en yole ronde, il a été annulé l'an dernier. Événement incontournable dans le département, il aura lieu cette année du 26 au 30 juillet.
Rappelons que la yole est une embarcation légère, disposant d'une voile et ayant la particularité de ne pas comporter de banc de nage, mais des bois dressés sur les côtés et une godille à l'arrière. Alors le retour de cet événement très prisé des Martiniquais, c'est évidemment une bonne nouvelle en principe. Seulement voilà, situation sanitaire oblige, il n'y aura pas de grand rassemblement dans les communes étapes et les arrivées se feront en mer. Une configuration qui ne déchaîne pas forcément l'enthousiasme des passionnés. Écoutez ces deux réactions recueillies par Claude Gracien.
On va perdre notre patrimoine. On devrait annuler le tour cette année et réorganiser le tour pour l'année prochaine de manière concrète.
Je suis toujours au match. Au match, les tribunes sont remplies, bondées de monde. Pour la yole, on est en plein air, donc on peut organiser une course de yole.
Oh, on est en train de tuer notre course de yole.
Il fallait maintenir ou pas le tour?
Ah ben, c'est pas dans ces conditions, tenir le tour, puisque maintenant on a dit que ça a diminué. Tenir le tout, faire autrement, mais pas comme on a dit, 5 jours, on ne fait même pas un week-end pour que les gens ne puissent pas venir. Alors, mais comment ça va se passer sur la mer? Est-ce qu'il y aura une interdiction déjà sur la mer? Tout le monde va se mettre en bateau sur la mer, ils vont jeûner les yoles. Ils n'ont pas bien réfléchi pour faire le tout. C'est pas possible, ne faites pas le tout.
On reste dans le domaine maritime avec l'activité qui a repris samedi matin en Guadeloupe sur le port de Pointe-à-Pitre après 4 jours de blocage du chenal par des marins pêcheurs en colère. Après un accord sur une baisse du prix du carburant, l'accès au port a été finalement libéré, donc au grand soulagement du directeur général du grand port de Guadeloupe, Jean-Pierre Chalus. Il est au micro de Marilyn Plaisir.
Tous les professionnels de notre place ont été affectés, les pilotes, les remorqueurs, les manutentionnaires, les transporteurs qui sont derrière. Il faut ensuite reprogrammer nos activités et ça a été fait au fil de l'eau en fonction des évolutions jusqu'à la décision finale de samedi. Tout le monde s'est mobilisé pour rendre possible la reprise d'activité immédiatement après la signature de l'accord. Il y a un certain nombre de bateaux qui étaient en attente dans la zone, d'autres qui sont partis sur d'autres destinations. Donc il y a vraiment eu un mécano géant qu'il a fallu reconstituer avec l'ensemble de nos partenaires, les armateurs qui ont fait part de leur nouvelle programmation d'escale ou autre. Donc beaucoup d'adaptations en temps réel pour toute nature de trafic, que ce soit du conteneur, que ce soit des navires rouliers, que ce soit du navire de vrac, sur les liaisons interrilles également avec Marie-Galante notamment. Beaucoup de reprogrammation en direct.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première qui concluent comme chaque jour ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques réalisé aujourd'hui par Claude Battista. Vous pouvez nous réécouter sur RFI Pure Radio et commenter l'actualité aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, notamment avec @RFI Amérique. Très bonne journée à tous et à demain sur la Radio du Monde.
Dans le cadre de la saison Africa